Chers amis, assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. L'heure est assez grave. Je dois être direct. Je vais droit au but puisque hier soir, j'ai passé plusieurs heures au téléphone avec, j'allais dire avec un frère, mais ce n'est plus un frère puisque cet homme a décidé de quitter l'islam. Voilà, il a décidé d'apostasier et nous avons discuté longuement. Il a motivé sa décision, il donne des arguments, et c'est pour ça que je voudrais qu'on prenne le temps de discuter. Donc, posez-vous tranquillement avec un café ou un thé, ou peut-être êtes-vous dans les transports en commun, ou peut-être êtes-vous occupé à une tâche domestique, peu importe. Ce qui est important, c'est qu'on se pose un petit peu pour en discuter, parce que je trouve que c'est important, c'est un enjeu qui touche la communauté aujourd'hui. Et qui mérite quand même d'être soulevé. Donc voilà, il a des doutes, ce monsieur. Il avait des doutes pendant plusieurs mois, peut-être pendant plusieurs années finalement. Et ces doutes sont devenus de plus en plus étouffants finalement, jusqu'à motiver le fait de quitter l'islam. Alors vous savez, il y a plusieurs raisons de douter. Il y a aux États-Unis une organisation qui s'appelle Yaqeen Institute. Yakin signifiant la certitude. Et une des raisons qui a motivé le fait de fonder cette organisation, c'est de se demander pourquoi est-ce que il arrive que des musulmans doutent. Et il y a plusieurs raisons qui justifient le doute d'une manière ou d'une autre. L'auteur qui a fait les premières recherches, il a classifié ça en trois grands motifs, trois grandes familles de doutes qui ne sont pas exclusifs les uns des autres, ils peuvent se combiner. Et donc, dans le cas d'aujourd'hui, dans le cas de l'homme avec qui j'ai parlé, se combiner. Mais donc, il y a d'une part les arguments scientifiques. Vous savez, les arguments qui sont du style « Et que dire de la théorie de l'évolution? Et que dire des miracles? Est-ce que c'est possible qu'il y ait un déluge? Est-ce que c'est possible que... donc, le déluge du temps de Nuh, alayhi salam. Est-ce que c'est possible que, durant l'exode de Moussa, alayhi salam, la mer s'ouvre en deux? Est-ce que c'est possible que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que la lune se fende en deux, tout ça toujours avec la volonté de l'Allah, évidemment. Mais est-ce que c'est possible scientifiquement? Est-ce que c'est possible la génétique, la microbiologie, l'archéologie, toutes les disciplines scientifiques? Est-ce que c'est possible de concilier l'islam à la réalité scientifique des choses? Donc ça, on en a un petit peu parlé dans le vocal précédent, donc je reviendrai plus tard sur ce sujet, mais je considère qu'on en a déjà un petit peu parlé. Il y a une deuxième famille de doutes. C'est celle qui entoure les questions des normes sociales et morales, et ça va plutôt être du style, est-ce qu'on peut penser que l'islam est la religion agréée par un Seigneur miséricordieux, alors qu'il y a des lois qui sont terribles, il y a des lois qui sont horribles, il y a des normes, des prescriptions, des législations qui me choquent, moi, en tant que musulman qui me pose des questions sur le dîn. Voilà, ça c'est la deuxième grande famille de sources de doutes. Il y en a une troisième qui est un petit peu à part, parce que c'est les doutes liés à des traumas personnels. Et donc ça c'est plutôt... Par exemple, le fait d'avoir subi des abus ou de l'injustice et d'imputer cette histoire personnelle difficile à l'islam à travers, par exemple, la figure d'un imam, la figure du père, du grand frère. Voilà. Donc, chez une personne, il y a, généralement, chez une personne qui veut quitter l'islam, il y a un mix de ces trois éléments, de ces trois piliers du doute, en sachant qu'ils peuvent évidemment se combiner et que certains piliers peuvent être plus importants que d'autres. Mais ici, avec le jeune homme avec qui j'ai discuté pendant de longues heures, il s'agissait surtout d'arguments de type normes sociales et morales. Selon lui, si je paraphrase un petit peu, évidemment c'est une longue discussion, donc beaucoup de choses ont été dites, donc je vais évidemment synthétiser, mais en gros, l'islam, avec ses lois, est horrible. Voilà. Ces lois sont injustes. Quand on regarde par exemple la question de l'héritage, le fait que... l'héritage n'est pas le même pour la femme et pour l'homme, les lois liées au divorce, les peines légales, évidemment les hudouds, c'est-à-dire la peine la peine légale qui est infligée au voleur, qui est infligée à l'apostat, qui est infligée à l'adultérin, tout ça, ce sont des prescriptions qui sont difficilement compatibles avec la justice. Par ailleurs, au-delà des lois qui sont horribles, il y a des prescriptions qui sont absurdes, selon lui. Donc par exemple, voilà, si vous prenez un cours de fiqh, dès les premiers chapitres, par exemple la purification, puis vous avez Voilà, tous les chapitres liés à la prière, au jeûne, je sais pas moi, au rite du pèlerinage, de l'aumône. Vous avez des règles à suivre qui sont pour certaines obligatoires, pour certaines facultatives, pour certaines recommandées. Et quand vous voyez l'ordre avec lequel vous devez faire les ablutions, vous ne pouvez pas le faire dans n'importe quel ordre. Même chose pour la prière, vous devez suivre toute une série de règles qui s'imposent à vous. Et je prends quelques exemples, mais énormément d'aspects du dîn sont comme ça encadrés par des règles. C'est absurde, ça n'a pas de sens selon lui. Et alors je lui demande évidemment, mais comment est-ce qu'il décide finalement que telle loi est injuste ou que telle prescription est absurde? Et il me répond avec une expression qui est revenue, je pense, une centaine de fois dans notre discussion, c'est celle du bon sens. C'est du bon sens. C'est-à-dire, il suffit juste d'y réfléchir, il suffit d'ouvrir les yeux. Le problème, finalement, c'est comment est-ce qu'on définit le bon sens? C'est ce que j'ai essayé d'obtenir de lui. Parce que si on définit le bon sens en se prenant soi-même comme référence, ou en prenant comme référence le monde dans lequel on vit, la société et ses valeurs, on se retrouve vite confronté à une énorme difficulté, parce que c'est autoréférentiel. Le bon sens, je le définis comme étant ce que je crois être le bon sens. Les normes sociales, ce qu'on considère comme étant juste, comme étant injuste, ça change beaucoup d'une époque à une autre, ça change beaucoup aussi d'un pays à un autre dans une époque donnée. Je vais prendre un exemple pour illustrer mon propos. Okay. Il y a 10 ans, si je disais que dans la société, nous sommes globalement divisés entre deux catégories, d'une part il y a les hommes, et d'autre part il y a les femmes. Voilà. Si j'avais dit ça il y a 10 ans, j'aurais pas. Voilà, mettons que je vais mettre ça dans un tweet il y a 10 ans, en 2022, en 2012-2013, ben j'aurais pas eu de soucis, je pense. Et même en fait, je n'aurais pas eu à le dire parce que c'est tellement banal, c'est tellement trivial qu'il n'y a absolument aucune raison même de le dire. Aujourd'hui, en 2022-2023, dire ça sous forme d'une publication sur un réseau social, par exemple, ça va être considéré comme une grave injustice, comme une entorse à une norme morale, et il y a des exemples concrets pour illustrer cela. Si vous prenez une figure aussi consensuelle et aussi populaire que J.K. Rowling, vous savez, la romancière qui a écrit la saga Harry Potter. Il y a, je ne sais plus combien de temps, 2, 3 ans, elle avait publié sur Twitter, elle avait publié un article. Dans cet article, enfin, elle avait posté un article hein, issu de la presse britannique. Dans cet article de la presse britannique, on parlait des personnes qui portent un utérus. Voilà. Et J.K. Rowling, un peu par sarcasme et par humour, dit, tiens, des personnes qui portent un utérus, on n'avait pas un nom pour désigner ça? Est-ce que on disait pas quelque chose comme femme ou foum ou ah oui, je sais, femme. Voilà. Et donc elle avait juste dit ça a créé un scandale. Transphobie, homophobie, toutophobie, quoi. C'était le témoignage du fait que cette personne ne respecte pas les éléments de justice fondamentaux. Donc aujourd'hui, vous avez peut-être vu dans le JT de France 2 ou TF1, l'année passée, il y a 2 ans, cet enfant qui a quoi, 7, 8 ans, qui s'appelait, je sais plus, mettons Samuel, et qui veut s'appeler maintenant Liliane. Et il justifie ça parce qu'il pense tout simplement que c'est injuste que lui ne puisse pas ch changer de sexe, hein, qu'il ne puisse pas décider lui-même de qui il est. Donc ça, c'est un exemple d'évolution de normes incroyable en à peine quoi, 10 ans, 15 ans maximum. Donc prenons une machine à remonter le temps, faisons une expérience de la pensée. Hein. On fabrique une machine à remonter le temps, on monte dedans, on recule de 20 ans. Okay, on recule juste de 20 ans. Et on sort et on dit à la société, dans 20 ans, un enfant de 8 ans pourra décider s'il est un garçon ou une fille. Il y a de fortes raisons de penser que même des gens progressistes, même des gens qui se considèrent comme étant de ceux qui sont pour la liberté, diraient, mais enfin, c'est absurde. On peut aussi, au lieu de remonter le temps, on peut aussi aller dans l'avenir, le futur. On peut aller en 2040, 2050. Peut-être que à ce moment-là, on regardera le passé, on dira oh, il y a 20, 30 ans, je me souviens, on avait laissé des enfants, des adolescents, décider que c'était des garçons ou des filles, et même faire des opérations chirurgicales, d'ablation, d'organes génitaux, etc. Et c'était horrible, parce que maintenant, avec le recul, on sait qu'il y a des études en psychologie, en psychiatrie, qui démontrent que ça a été terrible pour la psychologie de ces personnes, certains se sont suicidés, etc. C'est une chose qui pourrait se passer. Hein. C'est pas complètement illusoire. D'ailleurs, il y a des exemples historiques de cela. Vous savez, Dans la presse 68, vous savez, il y a un des plus grands journaux français qui s'appelle Libération. Dans les années 70, 80, vous aviez des articles écrits par des auteurs ayant pignon sur rue qui parlaient de rapports intimes avec des enfants. Et quand je dis des enfants, on parle pas de 11, 12 ans, on parle de 4, 5, 6 ans. Ils en parlaient avec ravissement, avec des détails absolument incroyables. Et donc, pourquoi est-ce qu'on considérait que c'était quelque chose de bien? Libération, c'est le journal communiste, le journal de gauche. C'est parce qu'on considérait que finalement, la satisfaction des plaisirs charnels, c'est la quintessence même de la libération des mœurs, c'est la quintessence même du progrès humain. Évidemment, 20 ans, 30 ans plus tard, on considère ça comme étant une entorse insupportable aux règles et aux normes sociales et à la justice. Donc c'est un bon exemple pour vous montrer que quelque chose qu'on considère comme étant absolument juste aujourd'hui ne l'était pas il y a 20 ans et ne le sera peut-être plus dans 20 ans. Et ce sont des théories qui ont pignon sur rue. Je vais vous donner un exemple parce qu'aujourd'hui, vous savez, je vais vous donner plein d'exemples. Comme ça, j'illustre bien le propos que vous compreniez qu'il ne s'agit pas de lubies de ma tête, mais qu'il s'agit de choses qui se passent dans le monde réel. Un des principaux philosophes aujourd'hui dans le monde de l'éthique, dans le monde, c'est-à-dire dans le monde du choix d'un cadre moral, déontologique, c'est Peter Singer qui est, il est australien, je crois. On vérifiera, ça n'a pas beaucoup d'importance. Quoi qu'il en soit, même s'il est australien, il a un poste de professeur à Princeton, qui est une des meilleures universités au monde. Il a des livres qui sont parmi les plus vendus au monde. Il y a 40 ans, il a publié un bouquin qui s'appelle, vous savez, La libération animale. C'est le bouquin qui a rendu populaire la thèse végane, la thèse végétarienne, la cause animale comme étant une cause presque aussi importante que la cause humaine à travers une doctrine qu'il appelle l'altruisme efficace. Il n'est pas le seul. Il a initié un mouvement et aujourd'hui, ils sont très nombreux. Et il est influent, ce monsieur, puisque vous savez, pas besoin de vous le dire, mais aujourd'hui, on est passé du végétarisme au véganisme le plus strict. C'est presque devenu une norme sociale qui s'impose, par exemple, dans les CSP, chez les CSP+, chez les catégories socio-professionnelles supérieures dans le monde universitaire, dans le monde de gauche, notamment dans le monde progressiste. C'est considéré comme une valeur qui s'impose. Donc, on est en droit de se dire que des gens comme Peter Singer, ce sont des gens qui, lorsqu'ils écrivent des livres et défendent des thèses éthiques, bah, dans les 10, 20, 30 ans qui viennent, ça commence à faire tache d'huile et à se répandre dans la société. Vous savez que Peter Singer, il dit quelque chose d'assez intéressant. Quand je dis intéressant, c'est un peu sarcastique. Il dit par exemple que, mettons que Jean et Célestine, frère et sœur, Jean a 25 ans, Célestine a 23 ans, ils sont terriblement fous amoureux les uns des autres. Je suis désolé hein, si ça choque, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Eh ben, rien ne doit s'opposer à leur union, rien ne doit s'opposer à leur mariage. Même chose si c'est deux frères, même chose si c'est une tante et un neveu ou que sais-je. Puisque finalement, à part des arguments de type théologique, de type transcendantaux, si on regarde du point de vue athée, si on regarde d'un point de vue progressiste, pourquoi empêcher des êtres qui s'aiment de s'unir s'ils ne causent aucun tort à la société autour d'eux, tant qu'ils sont consentants? Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez plusieurs intellectuels athées qui ont pignon sur rue. Si vous prenez Lawrence Krauss, qui est un physicien qui fait partie, vous savez, des 5-6 grands athées anglo-saxons, avec Dawkins, avec Hitchens, avec Pinker, avec Sam Harris, ce sont des gens qui ont pignon sur rue. Ce sont des gens que vous allez retrouver dans des conférences à Harvard, vous allez retrouver dans des conférences en Afrique du Sud, à Singapour, partout dans le monde. Ils sont très sollicités et ils déploient des trésors d'intelligence pour défendre leurs idées. Ils considèrent tous, Lawrence Krauss et Hamzat Sortis, qui est un frère, qui fait de la dawa, qui lui a posé la question directement dans une conférence qui est sur YouTube. Il a posé la question, est-ce qu'il faut autoriser les deux frères, deux sœurs, un frère et une sœur à se marier et à avoir des rapports? Il a dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc ici, nous avons des exemples de normes sociales qui ont cours aujourd'hui, et c'est un exemple parmi d'autres. Lorsque vous n'avez comme repère que vous-même, ma foi, il n'y a pas tellement de limites. Je prends un autre exemple pour vraiment montrer un petit peu dans tous les espaces dans lesquels ce type de raisonnement peut se déployer. Si vous prenez par exemple le Cambodge, vous avez une ethnie au Cambodge qui s'appelle les Khmers. Et pendant les années 70-80, vous aviez un mouvement communiste, ce qu'on appelait les Khmers rouges. Les Khmers rouges considéraient que les lois religieuses, les lois traditionnelles sont absurdes, sont injustes. Et donc, dans leur doctrine communiste, Il considérait par exemple que la famille, hein, papa, maman, les enfants et les grands-parents, les tantes, les oncles, c'est une création bourgeoise. C'est une création qui relève du capitalisme, qui relève de l'Ancien Régime, la société féodale et avant ça l'Antiquité, qui ont petit à petit sédimenté, cristallisé une cellule familiale qui en fait ne se justifie pas d'un point de vue des normes rationnelles. Et donc, il était interdit sous les Khmers rouges, d'appeler son père papa et d'appeler sa mère maman. Il était même interdit de considérer le fait de revendiquer le fait que son fils vive avec soi. Hein, si vous étiez père, vous deviez laisser votre enfant à la collectivité qui allait rejoindre une école ou une structure avec d'autres enfants et là apprendre les vraies règles rationnelles, pas les vieilles règles religieuses. Donc voilà, si on faisait un bond dans l'histoire, mettons qu'on. Moi j'aime bien faire des bonds dans l'histoire, vous savez. Moi j'aime bien aussi les expériences de pensée. Imaginons qu'on prenne notre fameuse machine à remonter le temps, que décidément on utilise beaucoup aujourd'hui, et on va au siècle des Lumières. Vous savez, les Lumières, c'est un petit peu le siècle où on essaye de sortir de la condition humaine absurde quand elle est sous la coupe de la religion et qu'on va essayer d'élever vers la raison. Et donc, si on allait chez Voltaire, par exemple, imaginez qu'on lui dise cela. Imaginez qu'on lui dise que deux frères peuvent se marier ensemble. Imaginez qu'on lui dise, je sais pas moi, qu'il faut l'abolition de la cellule familiale. Mais il serait horrifié de ça. Il serait horrifié alors que c'est la figure de la tolérance, la figure du progressisme, la figure du fait qu'il faut dépasser la religion. Donc pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que ça montre bien que les normes sociales sont contingentes. Qu'est-ce que ça veut dire quelque chose qui est contingent? C'est-à-dire que c'est lié à d'autres choses autour. D'ailleurs, si je reprends l'exemple de Voltaire, lui-même des choses qu'il pensait à son époque était tout à fait normal. Aujourd'hui, on le considère comme horrible. Par exemple, Voltaire pensait que les pauvres, c'est une classe d'indigents totalement, comment dire, minable, qui ne devait pas avoir de rôle particulier dans la société politique. Il pensait que les Noirs étaient des nègres, que en gros, on avait les aborigènes, les nègres quelque part très 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 en dessous, et puis peut-être les peaux rouges et les peaux jaunes un petit peu au-dessus, mais pas tellement. Peut-être que les Arabes sont un peu au-dessus et encore, et vous avez la civilisation blanche tout au-dessus. Ça, c'était des choses qu'on partageait comme étant tout à fait normal dans la société des Lumières et qu'aujourd'hui on considère comme étant horrible. Voilà. Donc toutes ces lois, hein, que je viens de vous présenter, des lois qui ont cours, par exemple avec les Khmers rouges, ça a vraiment existé, ou des lois qui ont de plus en plus de probabilités d'arriver, par exemple une loi qui autoriserait des frères et des sœurs à se marier. Eh ben, ça nous paraît pour nous horrible et pour d'autres ça paraît tout à fait normal. Même chose d'ailleurs pour passons voilà sur les règles qui sont jugées comme injustes, comme horribles. Même chose d'ailleurs pour les rites qui sont absurdes. Tout rite peut paraître absurde si on a un regard externe. Je sais plus si c'est Antoine de Saint-Exupéry qui disait quelque chose du genre je ne crois plus en l'étrange. Et ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'il avait tellement voyagé que pour lui l'étrange était devenu la norme. Chaque fois qu'on va dans un pays étranger, on est confronté à des rites, des façons de faire qui peuvent paraître absurdes d'un point de vue extérieur. Vous savez, voilà les rites qu'on a autour des ablutions, autour des invocations qu'on dit, des choses qu'on doit faire, manger à la main droite, alors que finalement pourquoi on pourrait pas manger avec la main gauche, ceci, ça paraît absurde. Mais existe-t-il une société sans rites? Moi, en préparant là, maintenant vite fait, en griffonnant sur mon calepin, quelques petites idées de rites qui ont cours dans la société aujourd'hui. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, les gens, quand ils boivent à l'apéritif et qu'ils se disent santé, ils doivent faire tinter les verres, ils doivent se regarder dans les yeux. S'ils ne se regardent pas dans les yeux, bah, c'est mal vu. L'homme, lorsqu'il veut se marier avec sa dulcinée, bah, il doit faire tout un cérémonial, il doit apporter une bague dans un écrin, il doit se mettre à genoux, il faut suivre toute une façon de faire. Et s'il le faisait pas, ça serait considéré comme étrange. Chaque bateau qui prend la mer, il faut briser une bouteille d'alcool dessus, sinon il y a quelque chose qui ne va pas. Et dans les universités, moi je suis bien placé pour savoir, dans l'université où j'ai étudié, il y a tous des rites de passage qui sont invraisemblables. Les jeunes étudiants doivent passer par des chansons à apprendre et par des rites et par des gestes qui sont considérés comme tout à fait normaux dans les universités. peut parler des hymnes nationaux. Aux États-Unis, par exemple, avant de faire cours, on doit chanter l'hymne national, mais pareil dans les compétitions sportives. S'il n'y a pas l'hymne national, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je suis en Belgique. Si vous voulez en Belgique devenir, par exemple, enseignant, bah, vous devez d'abord signer un papier dans lequel vous jurez fidélité au roi belge. Pourquoi? Si vous êtes avocat, vous devez porter une robe. Si vous n'avez pas la robe, ça ne va pas. Si le directeur d'une école rentre en classe, il faut se lever. Donc vous avez toute une série de rites qui peuvent paraître absurdes. La couleur du deuil aussi. Si vous arrivez dans les funérailles et que tout le monde est en noir, vous êtes en blanc, vous allez passer pour un imbécile, alors qu'il fut un temps, la couleur du deuil, c'était blanc. Donc les coutumes du passé nous paraissent absurdes. Les coutumes aussi d'autres pays nous paraissent absurdes. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de comptes populaires sur Instagram, TikTok, machin, où vous avez par exemple tel Français qui est parti en Corée du Sud et qui fait du contenu souvent très marrant sur les choses absurdes qu'il y a en Corée du Sud. Ou même chose pour des gens qui viennent justement s'installer en France. Vous avez des comptes d'Américains qui s'installent en France et qui font des vidéos entières ou même du stand-up sur les rites absurdes. Donc comment est-ce que je fais pour savoir si une règle est absurde ou pas? En quoi est-ce que je puis moi décider que par exemple les règles liées à l'ablution sont absurdes? Sachant que c'est des choses qui sont contingentes. Prendre soi-même comme base pour décider qu'une loi est injuste ou pour qu'un rite soit absurde. Il y a un énorme problème, c'est que moi, je dépends premièrement de mes propres failles internes, et que si je prends comme référence la société dans laquelle je vis, ben cette société est également contingente. Ça change d'une époque à l'autre, ça change d'un pays à l'autre. Et pour moi, ça témoigne de quelque chose qui est essentiel à comprendre. C'est que chez cet homme qui veut argumenter ses 12 sur l'islam, le problème, il le prend à l'envers. Il le prend à l'envers. Pourquoi? Il se prend lui comme base solide pour juger. Ensuite, il prend le Coran, les hadiths, le patrimoine de notre religion, les règles juridiques qui ont été édictées à travers les siècles dans un long travail patiemment édifié avec les règles que vous connaissez. Lui, il se prend donc comme base pour juger de est-ce que c'est juste ou injuste, est-ce que c'est absurde ou pas. Alors que le problème, il faudrait le prendre dans l'autre sens. Il faut d'abord chercher une base solide en dehors de soi-même, puisque nous sommes dépendants de, bah, par exemple, des biais, de stéréotypes, de dysfonctionnement de notre propre pensée, puisque aussi nous faisons partie d'une société dont on a vu, j'ai donné de longs exemples où certaines normes peuvent paraître tout à fait justes et être injustes dans 20 ans ou il y a 20 ans. On ne peut pas partir de nous-mêmes ou de notre société pour décider ce qui est juste de toute éternité. Il faut chercher une base qui soit solide en dehors de soi-même, une référence légiférante qui, elle, n'est pas contingente, qui, elle, n'est pas juste liée à une époque ou à un pays ou à un univers, etc. Parce que si je pars de moi, je pars de quelque chose qui n'est pas solide. Donc la question qu'il faut se poser, c'est pas est-ce que moi, je juge quand je vois telle loi ou tel rite. Je trouve que c'est plutôt juste ou injuste. La question, c'est plutôt, existe-t-il un créateur? Existe-t-il un créateur qui veut quelque chose de moi? Est-ce qu'il existe un créateur qui a créé cet univers, qui m'a créé moi et qui me demande quelque chose? Et s'il me demande quelque chose, est-ce que je me soumets à lui ou est-ce que je me rebelle? La rébellion, ça a été par exemple le choix de Iblis, la'anatullah alayh. Il se retrouve face à un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui demande de se prosterner devant Adam alayhi salam. Mais il dit, ça va contre mon bon sens. Je pense que le bon sens, c'est que moi, j'ai été créé d'une substance pure. Vous savez, le feu, la lumière sont des substances éthérées qui sont magnifiques, qui sont considérées comme les plus belles. Adam, lui, non seulement il vient d'être créé, mais en plus il est créé à partir de boue, à partir d'argile. Normalement, ça devrait être lui qui se prosterne devant moi et pas inversement. Donc, Iblis a décidé qu'il allait partir de sa façon de voir les choses, alors que son créateur avait décidé que ça n'était pas dans le bon sens. Donc, la question qui se pose à nous, finalement, c'est quel sera notre choix? Existe-t-il un créateur? Il n'y a pas de doute sur ce sujet-là. Nous a-t-il demandé quelque chose? Il n'y a pas de doute sur ce sujet-là. Il a envoyé main et main messager et prophète alayhi salam pour nous dire ce qu'il attendait de nous. La question n'est pas est-ce que je pense que c'est bizarre, absurde, injuste ou pas. La question, c'est est-ce que j'accepte de me soumettre au seul législateur qui mérite l'adoration? C'est une question que je vous pose, mais c'est une question que je me pose en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers la vérité et nous fasse mourir soumis, nous fasse mourir musulmans. Amin. Qu'Allah vous préserve. On se retrouve très bientôt, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.